Pourquoi justement, c'est en repartant de cette idée de l'efflorescence qui est présente autant dans les manuscrits, dans la notation pneumatique, mais aussi dans l'art, dans les arts graphiques, notamment l'art de l'enluminure,
oui,
qui est un peu une explication symbolique à partir des métaphores théologiques, finalement de la compréhension que les Carolingiens, les Mérovingiens et les médiévaux avaient finalement du monde. Et pour surtout partir de la métaphore centrale du Moyen-Âge, qui est celle de l'arbre de Jessé, la fondation finalement de la généalogie du Christ, et repartir du fameux réponse Stirpe Siecé de Fulbert de Chartres, qui donc qui était attribué à Fulbert de Chartres, et qui va être un peu le terreau de développement du chant, de toute une tradition finalement de chant grégorien et d'organa, c'est-à-dire de techniques harmoniques, de conjointement des sons à partir de bases mathématiques et astrologiques.
On a tout à fait perdu ça dans nos mises en musique, dans notre chant liturgique. On parle plus tellement de cet arbre de Jessé.
Oui, dans le chant liturgique, j'ai une connaissance de la liturgie actuelle, et je peux dire qu'effectivement, cette notion anthropologique de filiation, de généalogie, est quasiment perdue, malheureusement.
Donc là, voilà, vous nous parlez d'un répertoire particulier avec un thème bien défini,
oui,
qui a eu lieu à une époque donnée,
voilà,
mais qui nous parle encore
et qui s'est développé sur des siècles. C'est ça qui est intéressant. Il y a un espace-temps qui est unique, en fait, qui est en dehors même d'un temps chronologique, justement. On sort d'un aspect chronologique du temps. Voilà.
Oui, on se positionne là dans une dimension sacrée.
Sacrée,
en fait.
Tout à fait. Voilà.
Première écoute, Frédéric Rentière.
Donc, je vous propose d'entendre la version du Stirpe Siecé du XIIIe siècle, qui a été développé donc par les chantres de la cathédrale de Notre-Dame, durant notamment la longue période de sa reconstruction.
Oui.
Ça, on oublie toujours, mais ils ont dû chanter et développer des chants extraordinaires dans un contexte extrêmement
dans
difficile.
Dans un immense chantier, c'est ça ?
Oui, un immense chantier, tout à fait. Tout était en chantier. On est au XIIIe siècle, toute la première partie du XIIIe siècle, jusqu'à la fin même du XIIIe siècle. Et donc cet arbre de Jessé va être finalement extrêmement présent dans la liturgie, notamment mariale, et va être l'occasion d'un immense développement organal, c'est-à-dire on va simplement reprendre le répond de Fulbert de Chartres, donc qui date du début du XIe siècle, hein, donc il y a quand même déjà historique, enfin on voit déjà quasiment deux siècles
plus tard.
Ouais, c'est énorme.
Mm-hmm.
Donc ce répond est toujours là, mais il va être cantus planus, c'est-à-dire il va être chant plein, chant étendu, chant stable finalement. C'est la mémoire, c'est ce qui est resté imprégné finalement dans les hommes et dans la et qui est commémoré et remémoré incessamment dans la liturgie, et qui va être développé justement par des techniques de conjointement des voix. Donc quand je dis conjointement, c'est l'art finalement de laisser s'éloigner les voix les unes des autres, et aussi l'art de les faire se retrouver harmonieusement, et au travers de techniques de rencontre qu'à l'époque ils appelaient l'ocursus, donc ce fameux ocursus qui était un art, toute une manière de faire se rencontrer les sons, souvent par une dissonance, et de les faire se retrouver par donc un prisme harmonique pur, comme la quinte, l'octave, parfois la quarte aussi.
Un jeu de tension et de détente.
Voilà, un jeu de tension et de détente. Et au moment où souvent le plein chant allait changer de note. Le plein chant étant chanté par la scola.
Donc on a le grégorien, la mélodie ancestrale qui est là depuis des siècles, qui sert de base,
tout
et dessus, ces mélismes, ces ornements, avec ce jeu de dissonance-consonance pour sensibiliser presque et enrichir le discours.
Exactement. Et donc là, par rapport à la liturgie moderne, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'art, en tout cas, l'art tel qu'on concevait à l'époque, c'est-à-dire en tant que technique, n'était pas du tout quelque chose qui dissipait la conscience liturgique et la conscience théologique et l'intériorisation. Bien au contraire, c'était justement des musiques
de prière.
Alors, c'est un terme qui fait peur, mais un terme des musiques mystiques, c'est-à-dire des musiques qui nous faisaient nous recentrer à l'intérieur de nous.
Ou comme la démarche des icônes ou de l'art sacré.
Voilà. Donc du coup, il y a vraiment une unité parfaite entre la technique et l'acte liturgique.
Thank you.
Oui, donc justement, j'ai décidé d'arrêter. L'organum n'est pas terminé, mais il se termine justement sur Virga Est, justement à un moment où on peut dire une sorte de petit motet, enfin c'est pas encore vraiment un motet parce qu'on rajoute pas des mots, mais à un moment où une petite clausule, ce qu'ils appelaient une clausule, qui va mettre en valeur le mot Virga, et l'important justement que la Vierge justement est la branche à partir duquel le Christ va se développer, va croître.
Je suis avec Frédéric Rentière, le chef de l'ensemble médiéval Vox in Rama, qui nous fait pénétrer dans ce monde fascinant de la musique polyphonique médiévale, les débuts de notre musique actuelle, et qui est une musique vibrante, riche, irriguée de nombreuses sources. Et je vous laisse continuer, Frédéric.
Donc là, je souhaiterais vous faire entendre une autre pièce très connue des grégorianistes, puisque c'est l'introïte de la nuit de Noël, du jour de Noël, excusez-moi, Puer natus est,
un enfant nous est donné,
et qui, à partir du troisième quart du XIe siècle, va être tropé. Alors tropé, c'est un mot un peu barbare, c'est un mot grec qui signifie tournure personnelle, façon personnelle de dire les choses, et qui dans la liturgie, en fait, est un commentaire, tout simplement. Et alors, ce qui est fort, c'est que ce commentaire va être chanté en alternance avec des stances, en fait, de l'antienne.
Nous sommes toujours dans ce Puer natus est de Noël, qui parle de la douceur de l'enfant Jésus nouveau-né. Je suis toujours avec Frédéric Rentière. On va se permettre de parler sur cette musique, parce que, en fait, on va pouvoir entendre très bien à l'oreille le passage, l'alternance entre l'antienne, l'hymne grégorien, et le trope qui est un commentaire sur l'hymne grégorien. Donc je vais laisser Frédéric nous annoncer quand arrivent ces commentaires, ces passages tropés.
Là justement on a un trope, un commentaire sur l'admiration justement que suscite cet enfant nouveau-né.
Et ça, c'est un commentaire libre, le texte est libre.
Voilà, c'est un texte souvent qui est rimé, une prose en fait, qui était composée par les moines, chantée en alternance.
Là, mais... c'est plus le croyant, le fidèle.
Exactement, voilà.
Qui commente, enfin.
Qui commente.
Qui admire. Qui...
Voilà, et la scola reprend l'antienne, la suite de l'antienne.
Là, de manière plus officielle.
Voilà, plus officielle, ça, c'est les textes scripturaires, les textes de la Bible.
On aura un autre trope là,
oui.
Bientôt.
Ok, voilà.
Donc, vous nous le réindiquerez juste.
D'accord.
Quand il revient.
Verset de psaume, qui est toujours chanté en alternance avec l'antienne.
Qui correspond à une version tropée encore.
Non, là c'est vraiment le propre de la liturgie.
D'accord. Tout était très défini alors.
Exactement, oui, très structuré. Là donc un nouveau commentaire, mais polyphonique cette fois-ci.
À plusieurs voix.
Sur la naissance, justement, le lien avec l'étoile de Jacob et le Christ.
Amené par une belle dissonance.
Voilà, tout à fait, les occursus dont je vous parlais.
Est-ce que les fidèles comprenaient les mots chantés? Le fidèle lambda.
Ça, c'est très difficile de savoir. Je pense qu'il y avait quand même une partie des fidèles qui étaient initiés. Peut-être une partie qui les témoins. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'était... des répertoires qui étaient constitués par des communautés de chanoines, donc qui étaient entre la vie régulière, oui, et la vie séculière. Donc ils avaient une certaine initiation à ce genre de texte, à ce genre de pratique, surtout liturgique. Mais c'était quand même pour un cercle probablement restreint. Deuxième commentaire.
Polyphonique.
Référence aux anges, justement. Mm-hmm. Cœur des anges.
Voilà, donc pour cet introït du jour de Noël, le Puer Natus Est, dans sa version polyphonique médiévale.
Voilà, c'est exactement.
Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, Frédéric, oui, Rentière, on peut l'entendre juste... c'est aussi une antienne grégorienne simple.
Ah oui, à l'origine, c'est une antienne grégorienne.
Alors, hein, comment on l'appelle celui-là, pour ce trope? On l'appelle le trope sur l'antienne?
Oui, voilà, trope de l'antienne d'introïte. Bon,
mais est-ce qu'il y en a eu d'autres décrits?
Oui, énormément, oui. Donc ça, c'est extrait
d'où il vient, celui-là?
Du Tropaire de Moissac, donc, qui était un livre de trope, justement, qui date à peu près du troisième quart du XIe siècle. Donc ça atteste d'une pratique... justement de commentaires du chant grégorien. Donc c'est relié au chant aquitain, puisqu'en fait c'est une tradition qui est en région aquitaine en lien avec Saint-Martial de Limoges.
Oui, rappelons que c'est votre extrait de votre disque Flores Aquitanes, enfin les fleurs d'Aquitaine.
Voilà, toute la périphérie de Aquitaine, en fait, la région aquitaine, qui est en lien avec cette tradition.
On passe à l'extrait d'après. Parce qu'il y a beaucoup de musique à
écouter. Donc, je souhaitais aussi vous faire entendre des extraits du Codex Callistinus.
On va rester un peu dans la région aquitaine, puisqu'elle est traversée par un des courants spirituels les plus importants d'une immense période, qui est le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.
Tout à fait, voilà, c'est un des plus grands pèlerinages de la chrétienté, et qui, donc, à l'origine, s'appelait le Liber Sancti Jacobi, le livre de Saint-Jacques, donc Saint-Jacques le Majeur.
C'est le carnet de chant de l'époque, allez.
Exactement. Voilà. Voilà. Donc le Codex Callistinus, donc qui relie justement les cinq livres justement qui sont.
Des chants de pèlerins.
Alors le premier livre est consacré aux chants de pèlerins et les quatre autres abordent les questions de cérémonie et la question justement de l'histoire du saint. Voilà. Et effectivement, donc dans le premier livre, on va trouver énormément de pièces de réponse, de chants justement de l'office d'Antienne, justement dédié à Saint-Jacques. Donc là, je voulais vous faire entendre un extrait de l'Antienne Dum et Sept Salvatorem, qui est en fait
qui commémore. Veut dire quoi ?
Donc alors que le Sauveur se tenait sur la montagne, il imposa à Jacques et à Jean le surnom de Boanerges, qui veut dire fils du tonnerre.
Glory be.
répond, extrait du codex de Calixtinus Dum Esset. Mmh. Frédéric Rentière nous a apporté son disque, enregistré avec son ensemble médiéval Vox in Rama, Flores Aquitanes, qui reprend une partie de cet immense répertoire, finalement, qu'il faut débroussailler en connaissance et en amour et en patience, ce que vous faites. En fait, dans ce répond, on a eu une alternance de l'antienne, qui est vraiment la phrase de l'évangéliste, la phrase de Saint Marc. Moi, ça m'a fait penser au récitatif de Passion, où le discours avance pour raconter vraiment, pour dire la phrase de l'évangile. Et puis, alterne à ça, le verset, qui est encore une fois un commentaire, comme vous l'aviez expliqué tout à l'heure, qui là est plus dans l'ornementation.
Voilà,
et
où justement l'organum tient sa place. C'est qu'il va avoir une fonction descriptive, extatique aussi.
Voilà, de prière musique.
Voilà, exactement.
Et là, à la fin de l'extrait, on avait donc le passage antienne, l'évangile de Saint Marc, qui reprend les mots du Fils du Tonnerre, qui sont en hébreu. Cité par Saint Marc en hébreu, et donc on l'a sans aucune retouche, aucune reprise.
Voilà, et traduit effectivement en latin, Bronel Gesch, Vox Toni Truvi. C'est le passage Marc 3:17.
Voilà, donc si on prend sa Bible, on le retrouve intégralement. Mmh. On continue à voyager dans le temps et en musique avec vous, Frédéric Rentière.
Donc je vous propose de continuer dans l'immense corpus du Codex Calixtinus, cette fois-ci avec l'antienne de Magnificat, donc chantée à la fin des Vêpres. O lux et decus Hispaniae sanctissime Jacobe, ô lumière et splendeur de l'Espagne, toi Saint Jacques qui détient la primauté sur les apôtres, toi le premier martyr victorieux.
Dimentimus eum.
Ces vêpres continuent, ces vêpres, ce dialogue sur le Magnificat, extrait des vêpres de Saint-Jacques de Compostelle, parce que les vêpres, Frédéric Rentière va expliquer ça, mais ont un schéma bien défini. Alors on entend.
Oui, on a un ordinaire des vêpres, voilà. Comme pour tout office.
Tout office, voilà. Mm-hmm. Et donc avec des psaumes et puis des passages du Magnificat. Là, on a eu la doxologie, ensuite le retour du répondre.
Voilà, on a un cantique évangélique, effectivement, qui en général termine le pensum, justement, la lecture des psaumes, le chant des psaumes. Oui, tout à fait.
D'où le mot pinsum.
Le pinsum, effectivement, oui. Enchaîner les psaumes dans l'ordre, vous sautiez, oui.
Vous me disiez aussi, pendant qu'on écoutait la musique, que ce Codex Calixtinus avait été commandité par l'abbaye de Cluny.
Oui, en grande partie.
Rapidement,
je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire politique, ouais, hein, mais qui est une histoire fascinante.
Ouais.
Mais effectivement, le manuscrit est en notation dite française. Justement, Guédrus Gapsis, qui a écrit un article, justement,
oui,
qui est spécialiste de ces questions-là, justement, l'explique très bien dans le livret, que justement, c'est une notation française. C'est pas du tout une notation hispanique ou après dans
Occitane,
etc. Mmh. Donc, effectivement, il y a un lien fort avec Cluny.
Donc, tous ces lieux dialoguaient. Enfin, l'Europe était...
Oui. Il y avait énormément de tractations et d'échanges culturels.
Même si c'est beaucoup au niveau, là, des monastères. Et pas forcément de la vie ordinaire.
Oui, à ces époques-là, c'était quand même
le
monastère,
hein, ce que vous disiez,
qui était les lieux de pensée et de décision aussi.
Et de là, des monastères se propageaient en fait les pensées, les opinions, les orientations. Vous disiez même toujours hors micro que c'était aussi pour le but étant de lutter contre la naissance d'un arianisme dans l'Espagne du Sud.
Oui, certains articles de scientifiques qui en parlent très très bien expliquent justement les questions justement d'unité de l'Église, mais qui ont toujours été posées de toute façon, hein, et de toute Église.
Le pape, c'est une de ses premières missions. Hein.
Voilà, effectivement. Mais donc même si la papauté était très différente à cette époque-là.
Non, mais je veux dire actuellement de nos jours, pour ce qu'on en connaît.
Oui, voilà. Mais effectivement, il y avait une question d'unité justement et
de principes affirmés et harmonieux.
Donc effectivement, le pèlerinage de Saint-Jacques avait une grande fonction aussi dans l'unité de l'Église à l'époque. C'était essentiel pour cette unité.
On continue en musique, Frédéric Rentière.
Je souhaitais aussi vous faire entendre une pièce assez particulière, qui est un kyrie. Donc le kyrie, c'est un terme grec, hein, c'est Seigneur. Eliasson prend pitié de nous, qui a été énormément, donc, d'une pièce de l'ordinaire de la messe, une pièce stable, qui est toujours chantée au début, qui est un rite litanique, en fait, qui a amené à la pénitence.
Et ça, on connaît, je dirais.
Je pense que oui, ça, voilà, c'est extrêmement connu, le rituel de la messe est très connu.
C'est resté.
Oui. Et donc, ce Kyrie était connu sous l'appellation de Cuncti Potens Genitor.
Qui veut dire ?
Et qui veut dire donc géniteur tout-puissant, créateur tout-puissant. Oui. Et qui donc a été énormément tropé au Moyen-Âge, notamment justement, dont on trouve une version dans le Tropaire de Moissac, dont vous avez déjà entendu oui. une pièce tout à l'heure. Et qui justement va alterner donc les commentaires, les tropes, avec les sections du Kyrie.
Là, on va peut-être bien entendre la différence.
Voilà. Et alors, donc, dans cette pièce-là en particulier, vous allez entendre deux sortes d'organa. Vous allez avoir un premier organum très archaïque, qui est en fait, qu'on appelle souvent l'isone, qui est le principe du redoublement d'un son à la quinte oui. supérieure à la quarte. Alors, on est dans des choses techniques, mais...
Non, mais ça, les auditeurs vont l'entendre, c'est typiquement ce qu'on appelle de la musique archaïque.
Musique archaïque, voilà,
c'est ça. C'est très, très clair.
Donc, effectivement, là, on est déjà dans les racines.
On va avoir Kyrie Eleison en monodie. Ensuite, on va avoir
d'abord le trope, Cuncti Potens Genitor, oui. et le Kyrie Eleison. Parce qu'en fait, ce qui est aussi un détail technique, musicologique, mais qui est très intéressant, c'est qu'il prenait le Kyrie et qu'il rajoutait un texte, il syllabisait le texte du Kyrie, en fait. C'est-à-dire qu'il prenait chaque note, et à chaque note, ils appliquaient une syllabe du trope. Donc en fait, c'est la même mélodie qui est répétée deux fois. Une fois avec le texte, le trope, et une fois le Kyrie lui-même, la litanie. Voilà. Et donc, dans j'ai choisi d'insérer entre chaque triple Kyrie, puisque c'est trois fois Kyrie, trois fois Christ et trois fois Kyrie, oui. la structure liturgique oui, médiévale, donc d'y insérer les organas du Codex Calistinus. Donc en fait, on a deux traditions liées au même Kyrie qui se côtoient dans la pièce.
Deux commentaires, deux tropes voilà. d'époques différentes.
Voilà, et donc là, les organas du Codex Calistinus, donc eux qui datent du début du XIIe siècle, sont déjà des organas fleuris, des organas mélismatiques. Donc
on a moins archaïques.
Voilà, c'est ça. Donc on entend les deux sortes d'organa finalement.
C'est un collage que vous êtes permis en fait.
Je pense que c'est un regard en fait posé sur la tradition du trope, mais probablement comme ça aurait pu être chanté au XIIe siècle et pas au XIe siècle.
Oh.
Voilà, donc le début de ce Kyrie Concupotens, mais qui est beaucoup plus long à chaque fois.
Oui.
C'est une musique qui prend son temps, cette musique médiévale.
Oui, tout à fait. Oui,
De fait, c'est pas du tout le même rapport au temps que
exactement.
Le nôtre.
Ça me fait penser justement aux quelques expériences qu'on a eues où on nous a demandé de chanter justement pour diverses liturgies. Et souvent, la réaction, c'est de dire, mais... à l'époque, ils prenaient un temps qu'aujourd'hui, on ne prend plus. C'est pas possible.
Oui,
c'est pas possible.
Oui.
Il y a une dilatation du temps. Et c'est vrai que pendant les concerts, il y a un moment donné, beaucoup de gens, à la fin des concerts, viennent nous dire, mais on voit pas le temps passer. On ne sent plus le temps, surtout.
Oui, c'est
pas qu'on
vrai.
Voit pas le temps passer, on le sent pas. Oui.
C'est ce qu'Olivier Messiaen aussi imposait à ses auditeurs, enfin, entre guillemets, le imposait, mais il avait lui aussi un rapport au temps. Quand il partait en improvisation à la Trinité, il oubliait le temps. Alors, ça pouvait être 20 minutes de musique extatique.
Et oui. Mais c'est exactement extase dans le sens vraiment étymologique. Oui.
On peut vous entendre en concert avec votre chœur Vox in Rama qui est mixte. Enfin, on a pu entendre là dans toutes les musiques des femmes et puis des hommes.
Fait,
et puis très très rarement vous les mélangez parce qu'à l'époque ça ne se faisait pas. Mais...
Alors oui, dans ces répertoires-là, c'est vrai qu'il n'y avait pas de voix mixte en fait. Hein. C'était soit des moniales ou des moines, mais c'était il n'y avait pas ce mélange mixte qui est caractéristique de la fin du Moyen Âge finalement et de la Renaissance. alors on se produit régulièrement en concert en Île-de-France et sur Paris. Là, on vient de faire un concert, notre concert habituel aux Billettes, où nous avons reçu un accueil extraordinaire du pasteur Joly.
Qui est un temple protestant.
Exactement, un temple luthérien. Mais
très, très bel endroit.
Un endroit magnifique, une acoustique extraordinaire et un accueil, justement, pour le chant grégorien et ses musiques extraordinaires. Une écoute d'une grande qualité. Et là, nous allons faire un concert à l'église Notre-Dame de Voisins-le-Bretonneux le 18 juin prochain.
Je crois que vous donnez aussi des cours.
Mais tout est sur le site internet, en fait, voxinrama.com. Hein, c'est www.voxinrama.com. Où justement
V-O-X-I-N-R-A-M-A.
Voilà, et donc il y a aussi la possibilité, pour ceux que ça intéresse, donc de commander le disque. Voilà.
Et puis d'assister à des stages, des cours que vous donnez pour initier à la pratique pneumatique.
Exactement. C'est-à-dire que j'ai proposé cette année, dans le cadre de mes études doctorales à l'École pratique des hautes études, qui était soutenue par le Fonds de solidarité, que je remercie vivement, la création d'un cours, une initiative que j'ai prise, qui est justement de proposer un cours de chant grégorien, mais en partant des neumes, c'est-à-dire faire le même travail que probablement faisaient les moines à l'époque. On apprend les formules, on apprend notre formulaire, notre petit chapitre intérieur, pour reprendre l'expression d'Aurélien de Réaume, un traité du premier traité de chant grégorien. Et justement, on repart de ces formules et on essaye de retrouver le mouvement interne de ces formules, mais en étudiant les neumes.
J'en parlais au tout début de l'émission, ces petits signes, ces traits de plume biseautés qui indiquent le mouvement que doit prendre la mélodie. Donc on s'en fiche en fait de la note de départ.
C'est-à-dire qu'il faut...
Ce n'est pas des notes, c'est des mouvements ascendants, descendants.
Il faut avoir un chapitre intérieur. Il faut avoir quand même rempli en soi ces petites cases, savoir à peu près où quelle formule, dans quel mode on se situe.
Et après on décode et on progresse.
Voilà, après on est dans la remnésie.
C'est une autre écriture.
Exactement, on est dans la remnésie. C'est exactement le contraire de ce qui se passe quand on lit une partition, par exemple, de Brahms ou de Beethoven. C'est-à-dire, d'abord, on absorbe la matière écrite et ensuite, on recrée ça en nous.
Là,
c'est l'inverse.
On se fait son...
La partition va réveiller en nous des formules et elle va nous aider simplement à restructurer.
Ça joue sur la mémoire, quand même.
Exactement.
Il ne faut pas oublier que c'était une immense tradition orale, évidemment. Hein, alors que la musique de Brahms, c'est de la tradition purement écrite.
Exactement.
Hein, c'est le comparatif.
Et donc, je remercie vivement la Bibliothèque du Solchoir qui...
Dans le 13e,
oui, qui donc nous accueille pour le cours qui a lieu tous les mercredis de 16h à 18h.
Et donc, plus d'infos sur le site Vox in Rama, si vous voulez en savoir plus sur Frédéric Rentière, son cœur et son action qui vous permet d'appréhender ce répertoire passionnant. On se quitte en musique avec un conduit. Les conduits, c'était des musiques là de procession. Je vous laisse l'annoncer et je salue moi déjà les auditeurs et leur donne rendez-vous la semaine prochaine. À vous la parole, Frédéric Rentière.
Oui, donc pour conclure, je propose un conduit extrêmement connu, le Con Gaudeam Catholici, que les catholiques en ce jour se réjouissent, qui est donc un conduit donc de procession, conductus, le terme latin est suffisamment explicite, c'est ce qui conduit une procession, ce qui conduit un mouvement entre deux endroits stratégiques dans la liturgie. Et donc là, j'ai décidé, effectivement, c'est pareil, c'est une dérogation à une audace, de faire chanter le chœur d'homme et le chœur de femme ensemble pour la conclusion du conduit.
Au revoir, à la semaine prochaine, merci, au revoir.
Oh. les textes de la liturgie de ce dimanche dans leur cohérence. Aujourd'hui, la première lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis, tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit, pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction, parce que chacun d'eux les entendait parler, sa propre langue. Déconcertés et émerveillés, ils disaient « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. » Première chose à retenir de ce texte, Jérusalem est la ville du don de l'Esprit. Elle n'est pas seulement la ville où Jésus a institué l'Eucharistie, la ville où il est ressuscité, elle est aussi la ville où l'Esprit a été répandu sur l'humanité. À l'époque du Christ, la Pentecôte juive était déjà une fête très importante. C'était la fête du don de la loi, l'une des trois fêtes de l'année pour lesquelles on se rendait à Jérusalem en pèlerinage. L'énumération de toutes les nationalités réunies à Jérusalem pour cette occasion en est la preuve. Je cite « Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, de la Libye proche de Cyrène, Crétoises et Arabes. » Quelle litanie ! La ville de Jérusalem grouillait donc de monde venu de partout, des milliers de Juifs pieux venus parfois de très loin. C'était l'année de la mort de Jésus, mais qui d'entre eux le savait ? J'ai dit intentionnellement la mort de Jésus, je n'ai pas parlé de sa résurrection, car celle-ci pour l'instant est restée confidentielle. Ces gens venus de partout n'ont probablement jamais entendu parler d'un certain Jésus de Nazareth qui aurait été crucifié à Jérusalem quelques semaines auparavant. Cette année-là, pour eux, est comme toutes les autres. Cette Pentecôte-là sera comme toutes les autres. Mais déjà, ce n'est pas rien. On vient à Jérusalem pour la fête du don de la loi, dans la ferveur, la foi, l'enthousiasme d'un pèlerinage pour renouveler l'alliance avec Dieu. Pour les disciples, bien sûr, il en est tout autrement. Cette fête de Pentecôte, cette année-là, 50 jours après la Pâque de Jésus, celui qu'ils ont vu, entendu, touché depuis sa résurrection, cette Pentecôte-là ne ressemble à aucune autre. Pour eux, plus rien n'est comme avant. Ce qui ne veut pas dire qu'ils s'attendent à ce qui va se passer. Pour bien nous faire comprendre ce qui se passe, Luc nous le raconte ici dans des termes qu'il a de toute évidence choisis très soigneusement pour évoquer au moins trois textes de l'Ancien Testament. Ces trois textes, ce sont premièrement le don de la loi au Sinaï, deuxièmement une parole du prophète Joël, troisièmement l'épisode de la tour de Babel. Je commence par le Sinaï. Les langues de feu de la Pentecôte, le bruit pareil à celui d'un violent coup de vent, suggère que nous sommes ici dans la ligne de ce qui s'était passé au Sinaï, quand Dieu avait donné les tables de la loi à Moïse. On trouve cela au livre de l'Exode au chapitre 19. Je cite,